Je vous avais parlé à la fin du mois de décembre, on avait parlé de la tentation de Jésus, et je voudrais continuer sur ce thème. Alors, je crois que ça tombe un peu bien aussi, parce que, je pense que c'est pas pour rien, que si je suis malade aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien. Il y a 3 mois de ça, quand j'avais prêché sur l'épître aux Colossiens, c'est pareil, j'étais plié en deux par une douleur de vésicule, j'avais été hospitalisé à Dejnet toute la journée, l'après-midi qui a suivi. Donc je pense qu'il y a un vrai combat spirituel quelque part. Et si je vous parle de la tentation ce matin, je suis en plein dedans. C'est vraiment une épreuve pour ça. On verra que le mot tentation et le mot épreuve sont des mots interchangeables dans la Bible. Et on va revenir donc à ce texte de l'évangile de Luc. La dernière fois, on avait lu Matthieu. On va relire Luc chapitre 4. On fera un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. On était un peu avant décembre, j'irai assez vite. Je ferai ce que je pourrai au niveau du temps, mais je pense qu'il me faudra encore une troisième séance parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce texte, et notamment des choses très pratiques. Parce que la tentation et l'épreuve, c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours. Tous les jours, on est soumis à des épreuves, à des tentations où on peut chuter, où on peut gagner. Et la vie chrétienne est une vie de combat, finalement, on ne sera délivré que lorsqu'on sera là-haut au ciel auprès de Jésus. Donc on va prendre Luc chapitre 4, et on va le lire, ça va, vous arrivez à m'entendre quand même, la voix n'est pas trop... Alors, j'ai mon verre d'eau. Voilà, Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques petites différences avec le texte de Matthieu. Est-ce que vous avez noté notamment une différence majeure dans ce texte par rapport au texte de Matthieu que nous avons lu la dernière fois, que vous connaissez probablement? Je vais essayer de brancher le PowerPoint. Alors, il faut avancer comme ça. C'est bon. Comment ça se fait que c'est coupé en haut? C'est ma diapo qui est coupée. Problème de centrage. Est-ce que vous voyez une différence par rapport au texte de Matthieu? Une différence majeure. Il y a des petites différences, par exemple, il est dit dans Matthieu, il est dit si tu te prosternes devant moi et m'adore, et ici il est dit si tu te prosternes simplement. Mais quelle est la différence majeure avec le texte de Matthieu? Non, vous n'avez rien constaté? Il y a une inversion. Pardon ? Exactement, voilà, il y a une inversion de la deuxième et la troisième. Alors on verra que ça a peut-être une importance. En tout cas, il faut en tenir compte. Ça a une importance dans la signification et dans l'interprétation qu'on peut avoir de ce texte. Alors souvenez-vous, donc la dernière fois, on avait vu donc Jésus est conduit dans le désert pour être tenté. Alors le mot tentation, comme je le disais, c'est un mot grec qui signifie en fait la mise à l'épreuve quelque part. C'est-à-dire, c'est la mise à l'épreuve soit de manière positive pour essayer de révéler un comportement, pour éprouver un caractère, pour éprouver les circonstances de la foi, pour tester. C'est une espèce de test. Mais ça peut aussi signifier la mise à l'épreuve de manière négative, c'est-à-dire une intention malicieuse. Et on verra par exemple que le mot qui est utilisé ici au verset 12, après avoir achevé de le tenter, le diable donc qui tente Jésus, c'est d'une manière malicieuse, et c'est un mot qui est légèrement différent, mais qui a quand même la même racine. Donc la mise à l'épreuve, par exemple dans l'évangile de Jean, lorsque Colin nous a parlé la semaine dernière du pain de vie, lorsque Jésus leur dit au verset 6 du chapitre 6, lorsque Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », eh bien, on retrouve ce mot « épreuve », c'est-à-dire Jésus les met à l'épreuve, parce que la Bible nous dit « Il est dit, Jésus, il savait déjà d'avance ce qu'il allait faire, mais il les met à l'épreuve, donnez-leur vous-même à manger ». Quand Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger », c'est le même mot qu'on retrouve, le mot « tentation », le mot « mise à l'épreuve ». Donc c'est une mise à l'épreuve positive ou une mise à l'épreuve négative. Le diable le met à l'épreuve négativement pour le faire tomber. Donc on peut avoir soit une intention positive, soit une intention négative. Lorsque les Hébreux tentent le Seigneur dans le désert, par exemple, ils le tentent de manière négative. Voilà, juste pour mémoire. Alors, la dernière fois, on avait essayé de tirer de ces textes quelques généralités sur la tentation. Et je vous avais parlé de quatre généralités. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Quelles sont les caractéristiques générales des tentations qui nous assaillent tous? Là, on n'est pas à la faculté de théologie, en train de faire une thèse de 600 pages sur je ne sais quoi. On est juste dans la vie courante. C'est-à-dire, on est concerné tous les jours par de la tentation. Et il y avait quatre points qu'on avait ressortis. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est dur, hein? C'est vraiment le challenge du prédicateur. C'est à quoi je sers le dimanche? Alors, la première chose, c'est il est normal que l'on soyons tentés. C'est normal qu'on soit tenté. Il est dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on a un maître qui a été mis à l'épreuve, et souvenez-vous que la tentation de Jésus, elle se situe quand? Juste après son baptême et avant de démarrer le ministère. Donc avant de démarrer le ministère, Dieu permet que Jésus soit mis à l'épreuve pour voir s'il est apte à rentrer dans son ministère. Voilà. Et ce schéma s'applique à tout leader. Si demain vous prenez un challenge, par exemple Colin vient de rentrer comme ancien, il a un challenge de leadership dans les années à venir, il va être tenté. Donc il a besoin de prière, comme Jésus a besoin de prière. Donc, c'est normal que le serviteur qui veut suivre son maître soit tenté. Donc, si il vous arrive des épreuves, des mises à l'épreuve, c'est normal. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre condition ici-bas. Je ne dis pas qu'il faut rechercher les épreuves, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il est normal qu'on soit tenté parce que Jésus a été tenté. Deuxième caractéristique, on avait vu donc cette citation de Luther, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire notre nid dans nos cheveux. D'accord? Donc c'est notre responsabilité de répondre d'une certaine manière à la tentation. La mise à l'épreuve nous concerne. Si la tentation nous arrive dessus sans qu'on l'attende, on est quand même responsable de la manière avec laquelle on va répondre. Pas dire, c'est Dieu qui me tente, etc. Non, c'est pas... Je suis responsable de ma réponse. Donc c'est très important. Cette notion de responsabilité humaine, c'est une notion qui traverse la Bible. Il y a la part de Dieu, mais il y a toujours la part de l'homme. D'accord? Le troisième point, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas à l'abandon. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous mettre une épreuve qui est au-dessus de ce qu'on peut faire. C'est notre responsabilité de répondre, mais on est gardé quand même. On a un bon berger qui veille sur nous. On verra ça dans quelques semaines. On va parler du bon berger. C'est un des « je suis » de Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger, il va chercher sa brebis. Et enfin, le quatrième point qu'on avait vu, c'est que pour répondre à l'épreuve et à la tentation, eh bien, c'est la parole de Dieu. Et je vous avais donné un challenge. Je vous avais encouragé à acquérir des petits livrets, les navigateurs, pour mémoriser la parole de Dieu. D'ailleurs, tout à l'heure, un des versets qui a été lu par Jean Lionel, je crois. C'est toi qui as lu le verset de Proverbe. « Honore l'Éternel de tous tes biens et des prémices de tous tes revenus. » C'est alors que tes greniers sont remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mousse. Donc c'est l'un des versets qui est dans ces navigateurs-là. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Alors peut-être, est-ce que certains ont mis en pratique ce plan de mémorisation. Est-ce que vous avez commencé? Normalement, c'était il y a 5 semaines, donc ça fait 10 versets. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé ce plan de mémorisation? Éventuellement, je voudrais... Qui a commencé le plan de mémorisation de la Bible? Voilà, levez la main. Bon, c'est pas mal, il y a une petite dizaine de personnes. Ah, il y en a, moi j'en avais acheté une quarantaine, donc ils sont tous partis, j'en ai plus. Donc c'est dire qu'il y en a 40 dans la nature, il y en a 10 qui ont commencé. 25%, c'est pas mal. Donc j'encourage les 75% restants à démarrer. Parmi ceux qui ont commencé, est-ce qu'il y en a qui veulent juste dire un mot de témoignage? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Comment ça a été pour eux? Difficile, pas difficile? Est-ce qu'ils ont été récompensés, bénis? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce que quelqu'un voudrait donner un témoignage sur ça? Oui, Jacqueline et Christian? Allez, venez. Super. On sait que c'est plus facile pour les jeunes de mémoriser. Hein. On a l'esprit plus frais. Donc merci Christian et Jacqueline de
venir témoigner. Justement, c'est ce que nous allions dire, que nous sommes les représentants d'une tranche de la population de l'Église où c'est vraiment difficile. Alors nous nous encourageons tous les deux, tous les matins, à chaque moment de la journée auquel on y pense, à répéter. Eh bien, je vous assure, nous, on en est à 6 semaines, donc 12 versets. Heureusement que Pierre, de semaine en semaine, nous encourage, parce que parfois, j'aurais envie de rester où j'en suis, puis de recommencer ce que je viens d'apprendre. Et Pierre dit non, continuez, continuez. Alors, tout cela, si on s'est mis en route, Christian et moi, c'est parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas se nourrir uniquement de pain, mais qu'on doit se nourrir de toute parole de Dieu. Et un des versets, moi, qui m'a beaucoup accroché, Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, il y en a plein qui disent ça, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre, gardera votre cœur et vos pensées
en Jésus.
On peut les applaudir.
Alors moi, je ne vais pas vous cacher que c'est vachement difficile. D'abord, j'ai deux difficultés. La première, c'est que les versets, je les sais souvent, mais dans la version second 1910. Et là, on veut nous les apprendre en second 21. Et c'est pas tout à fait pareil et c'est difficile. L'autre difficulté beaucoup plus grande, c'est de retenir la référence. Et ça, je vais vous dire, j'y arrive pas. Alors, ça vaut quand même le coup d'essayer. Alors, je vous encourage à essayer, surtout que pour la plupart d'entre vous, vous vous investissez pour beaucoup plus longtemps que nous.
Merci, en tout cas, pour votre exemple. C'est très édifiant. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça coûte. De toute façon, traverser une épreuve, une tentation, ça coûte toujours. Il n'y a rien qui est... On le verra tout à l'heure dans la signification. On va étudier aujourd'hui la signification profonde de la tentation de Jésus. Est-ce qu'éventuellement il y a un jeune qui voudrait témoigner? Est-ce qu'il y a un jeune qui a appris quelques versets qui voudrait témoigner de ce qu'il a vécu? Allez Max.
Alors bonjour. Donc on a commencé avec Amélie. Je crois que ça fait plutôt 4 semaines, mais on est un peu en retard parce que au début on était très motivés, on a bien appris comme il fallait, on a suivi les conseils justement pour apprendre les versets. Je crois que les 2 premiers jours de la semaine on se concentre sur un verset, ensuite les 2 autres jours c'est le deuxième verset et après on se remémore le tout et on passe la semaine suivante aux autres versets. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on perd un peu l'habitude, et puis on se dit, bah mince, les versets de cette semaine, bah on s'en souvient plus. Du coup, bah, on a recommencé cette semaine. On a essayé de reprendre de bonnes bases. Tout ça pour dire que c'est pas facile, mais pour ma part, je suis reconnaissant parce que c'est vrai que j'ai la parole qui me vient souvent à l'esprit dans différents moments de la journée, de la semaine, et ça sert de référence, quoi. Des fois, quand on a des doutes ou qu'on sait pas trop comment se positionner, on a le verset qui saute aux oreilles, si je puis dire. Et du coup, c'est super encourageant. Et il y a notamment un verset que j'ai beaucoup apprécié. Là, par contre, je me mets des bâtons dans les roues, parce que je m'en souviens plus très bien.
C'est le maximum.
C'est Josué 1:8. Que ce livre, voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit, parlez. C'est toujours le milieu.
Médite-le jour et nuit. Afin
d'agir fidèlement, se parler.
Selon tout ce qui est écrit.
Voilà. Ouais, vous avez vu, c'est pas possible. Même pour les jeunes, c'est pas possible.
Mais c'est bien, Maxime, continue, c'est bien, c'est normal que tu...
Je retiens surtout la fin, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Bravo, Maxime. C'est bien parce que c'est la réalité des choses. C'est pas facile de mémoriser, c'est dur. Il faut y revenir. C'est un petit peu comme un sillon. Quand on a une terre qui est dure, qui n'a jamais été labourée, premier coup de pioche, il est dur. Et puis finalement, on creuse. Et plus on creuse, plus le sillon s'approfondit. Et plus la terre devient meuble. C'est-à-dire que c'est en apprenant qu'on exerce son cerveau. Et c'est de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on apprend. Merci en tout cas pour vos témoignages. Vous aurez l'occasion dans les semaines à venir de retémoigner. Il y a un des versets justement qui fait partie de la collection qui intervient plus tard, c'est ce verset d'Hébreux qui est dit, où il dit veillez les uns sur les autres afin de vous exhorter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnez pas votre assemblée, mais exhortez-vous réciproquement, ceci d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et c'est ce mot qui est important, exhortez-vous réciproquement. C'est pour ça que je vous avais suggéré de vous mettre par deux. Quand on est par deux, c'est beaucoup plus facile, parce que la Bible nous dit, celui qui est seul, il tombe, il n'y a personne pour relever. Alors que quand on est deux, si l'un tombe, l'autre le relève. Si à un moment donné, il y en a un qui n'a pas envie, c'est dur, il est malade, etc., l'autre lui dit, allez, si, on y va. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester seul. Et c'est pour ça que c'est important de s'exhorter. Voilà. Et puis vous verrez, un cœur pour Lyon, dans le témoignage, par exemple, vous êtes dans la rue, vous avez votre Nouveau Testament, et hop, à un moment donné, vous discutez avec quelqu'un, et vous avez besoin, vous avez un verset qui vous vient, que vous avez mémorisé, et bien la référence, hop, on trouve la référence, d'où l'intérêt d'apprendre la référence, et on montre à la personne que ce qu'on lit, on n'est pas en train de fabuler, mais ça vient de la parole de Dieu. Voilà. Et vous pouvez sauver une vie comme ça. Amener une personne des ténèbres à la lumière. Voilà, donc je vous encourage à persévérer, en tout cas. C'est pas facile, sachez-le, c'est facile pour personne, mais le résultat vaut la peine. Josué 1:8 nous dit, c'est alors que, le c'est alors que, c'est la vision. C'est toujours plus facile, quand on a une vision, c'est toujours plus facile de traverser une épreuve, quand on a une vision. Et c'est ce qu'il est dit de Jésus, en vue de la gloire qui lui a été réservée, il a souffert la croix, mépriser la honte ou mépriser l'ignominie, et maintenant il s'est assis à la droite de la majesté divine. Pourquoi est-ce que Jésus a pu traverser toutes ces épreuves? Parce qu'il a été tenté dans le désert, mais c'est pas la seule tentation. Il a été tenté de descendre de la croix, il a été tenté à Gethsémané, sans arrêt. La Bible ici, on a lu dans le verset 12 de Luc, le tentateur s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. Vous savez que dans la Bible, le moment favorable, le mot qui est utilisé dans l'original, c'est le mot kairos, c'est pas le chronos, c'est pas le temps au hasard, c'est le temps de Dieu. Jusqu'au temps de Dieu, et il y a eu d'autres temps où Dieu a permis qu'il soit tenté, et notamment dans le jardin de Gethsémané. Donc ça n'a pas été facile pour Jésus. On l'a chanté tout à l'heure, on s'est recueilli avant le moment de la scène, on a médité sur les souffrances de Christ. Christ a enduré des souffrances bien plus terribles que les nôtres, par rapport à apprendre quelques versets. Voilà, et puis ça m'encourage, moi, la fois suivante, je vous parlerai de l'importance, vraiment l'importance de la méditation et de la mémorisation des Écritures. On fera une étude approfondie, j'ai travaillé dessus, mais Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui, donc on le fera la prochaine fois. C'est vraiment capital, c'est vraiment une question enfin, cruciale. Hein. On parvient au temps de la fin et c'est important qu'on en parle. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va revenir un petit peu à la signification de cette tentation. En fait, si on va aller plus loin dans la réflexion sur ces trois tentations de Jésus, on a deux aspects qu'on peut considérer. Le premier aspect, c'est l'aspect méditation et mémorisation. Donc on ne le fera pas aujourd'hui, on le fera la prochaine fois. Ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ce passage peut nous apporter pour nous aider, pour nous armer contre la tentation. En quoi la compréhension de ce passage peut nous aider pour des futures tentations. Hein. Parce qu'au fond, si on réfléchit bien, qui d'entre nous, là je vous demanderai de lever la main, qui d'entre nous a été emmené 40 jours dans le désert, a eu faim et a éventuellement essayé de demander à des pierres qu'elles se changent en pain? Qui est-ce qui a déjà eu ça dans sa vie? Pas moi en tout cas, personne. D'accord. Qui a eu l'idée, en montant au sommet d'une tour, si vous avez visité, je ne sais pas, des grandes tours, la tour Montparnasse, les World Trade Center à New York, qui d'entre nous a eu l'idée, pour épater la galerie, de jouer les Batman ou les Spider-Man, en se disant, tiens, je vais me jeter du haut de la tour Montparnasse, par exemple, hein, je vais jouer les Matrix, là, c'est pff, le grand saut dans le vide. Qui est-ce qui a eu ça? Qui est-ce qui a déjà été tenté de faire ça? Personne, moi non plus. Hein. Et enfin, qui est-ce qui s'est vu proposer, qui a eu un deal devant lui, quelqu'un qui lui a proposé tous les royaumes de la terre? Ça vous est arrivé déjà? Moi pas. Hein. Donc ça veut dire que si on prend ce texte au sens littéral, on se dit, bah oui, Jésus, il a eu ça, mais moi j'aurais jamais ça. Donc ça veut dire que pour aller plus loin, pour comprendre ce que signifient les tentations de Jésus, il faut essayer d'aller derrière le rideau. Hein, parce qu'au sens propre, on n'aura jamais ce type de tentation. Donc on va essayer de voir finalement qu'est-ce que signifient ces trois tentations de Jésus et en quoi ça peut nous aider. Alors, justement, pour aller plus loin, on pourrait se poser la question, mais où est-ce qu'il est parlé de tentation dans la Bible? Est-ce que vous connaissez d'autres passages où il y a eu des tentations, où des personnes ont été tentées?
David.
Bon, David, il a été... Voilà, il a failli, effectivement. Joseph, donc là, Joseph a réussi là où David avait échoué, d'accord. Si on remonte un peu plus tôt dans la Bible, si on revient vraiment aux origines. Adam et Ève, ouais, ça c'est une bonne idée ça. Ça vous dit, on va essayer d'aller voir comment, finalement, Adam et Ève ont été tentés. On va voir s'il y a des similitudes. Hein. Donc je vous invite à prendre le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 1. Genèse, chapitre 3, verset 1. Donc, on va dire du début. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Voilà, donc dès les origines, on voit la chute, la source de tous nos maux finalement, le fait qu'on ne soit pas encore réunis avec Jésus, ça vient de là. C'est qu'à un moment donné, il y a eu une tentation. On a vu une tentation, je dois voir le texte. Voilà. Il y a eu une tentation, et on verra encore la prochaine fois quelle est la stratégie finalement de Satan. Quelle est la stratégie utilisée par Satan pour faire tomber Ève? Ça va nous aider pour résister à la tentation. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est nous concentrer sur qu'est-ce qui a fait chuter Ève, finalement. Qu'est-ce qui fait que Ève a cédé à la tentation? Joseph n'a pas cédé, David a cédé à la tentation, et Ève a cédé à la tentation. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cédé. Alors tout d'abord, on peut noter dans ce texte l'étrange absence de son mari. Adam, on ne sait pas où il est. On sait qu'il prend le fruit, mais il n'est pas là. Là, il y a un livre édifiant que je vous conseille de lire, au moins à tous les hommes, qui s'appelle « Le silence d'Adam ». C'est un livre de Larry Crabb, un peu ancien, mais qui explique bien le rôle du père, le rôle de la présence du mari dans le foyer, dans le couple, etc. Et là où Adam a failli. Hein, parce qu'Adam n'était pas là pour protéger. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter encore? Alors, la femme, elle a vu premièrement que l'arbre était bon à manger. Hein? Ça, c'est un premier point. Et puis, ensuite, elle a vu que l'arbre était agréable à la vue. Et enfin, l'arbre est propre et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, considérant ces trois points, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est passée à l'acte. Et ça, c'est important à noter. Premièrement, deuxièmement et troisièmement. Il y a trois points qui ont fait que Ève, graduellement, est rentrée dans un processus qui l'a fait passer à l'acte et qui l'a fait chuter. On va lire maintenant, je vais assez vite parce que le temps passe, je vais vous emmener dans la fin de la Bible. Et on va prendre ce que dit l'apôtre Jean à la fin de sa vie. Hein, on a vu donc la tentation de Jésus, la venue de Jésus, on est au milieu. On a vu le départ, d'accord, la Genèse, qu'est-ce qui fait que Ève a chuté. On va aller voir ce que nous dit Jean. Hein, Jean est probablement très âgé, 80-90 ans, il a écrit sa dernière épître. Elle est pleine de recommandations, et notamment, Jean va recommander un certain nombre de choses à ses disciples. Donc, 1 Jean 2, 15, 16. Je prends ma Bible. Ça ne doit pas être la même version. Vous voyez, au départ, il dit « Je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin ». Dans le premier passage, quand on regarde à partir du verset 12, il est parlé de vaincre le malin. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit ce matin. C'est comment faire pour vaincre le malin qui nous tente, qui essaye de nous faire chuter. Et voilà ce que dit Jean, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, et dans le passage de Jean au miracle, si on regarde un peu plus près, on va retrouver qu'on a aussi, qui nous fait chuter dans le monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc on retrouve les trois points qu'on a déjà vus, convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Donc on a vu Jésus au milieu de la Bible, on a vu la Ève au départ et on a vu l'apôtre Jean à la fin. Donc au travers de toute la Bible, on a une espèce de fil rouge qui nous met en garde contre la tentation, contre la chute, contre ce qui nous empêcherait, comme dit l'apôtre Paul, de ravir le prix. L'apôtre Paul nous dit que nous devons courir la course afin de tâcher d'obtenir le prix. Et il y a sur l'obstacle, ce n'est pas une course de plat, ce n'est pas un 400 mètres plat, c'est un 400 mètres haie. D'accord? Il y a des haies. Voilà. Et ça, ça fait partie des haies. Et tous les jours, on a des haies. Alors, si on prend ces trois points, je vais essayer de résumer ça de manière synthétique, parce que ce n'est pas facile à comprendre, mais vous verrez, on va y arriver. Hein? Le but, c'est quoi? C'est vaincre le malin. C'est vaincre les peaux de banane que le diable nous met sous les pattes. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens en arrière. Alors, je vous propose de voir le parallèle au niveau de ces trois textes. Et je vais prendre le texte de Luc, parce que le texte de Luc, vous savez que Luc est un médecin et Luc est un historien. Donc Luc, c'est quelqu'un qui est très didactique. Il le dit d'ailleurs à Théophile au début des Actes, il entreprend un travail de recherche approfondie pour bien appréhender l'ensemble des choses. Donc Luc est peut-être plus précis, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une inversion, parce qu'on verra que l'ordre de Luc correspond à l'ordre de la Genèse et correspond à l'ordre aussi de l'apôtre Jean. Matthieu a inversé les deux tentations, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a aussi la liberté de l'écrivain. Peut-être aussi parce que quand on regarde ces trois tentations, le pain, le temple et les royaumes du monde, peut-être que chez les Juifs, c'est que Matthieu écrit aux Juifs, donc Matthieu écrivant aux Juifs, le temple est très important chez les Juifs. Donc peut-être il a voulu mentionner, après l'épisode des pains du désert, peut-être il a voulu mentionner le temple en premier, avant d'avoir les royaumes du monde. J'en sais rien. J'ai pas d'explication, j'ai pas eu le temps de lire des commentaires sur ces passages. Mais si vous en avez, moi je suis preneur, j'ai pas d'explication. Mais en tout cas, le texte de Luc est très édifiant. Alors, les trois tentations, les pierres qui deviennent du pain, le montrer le royaume du monde et demander l'adoration, et jette-toi en bas, comme ça tu fais appel à tes anges et ils te porteront. Si on regarde finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les pierres deviennent du pain, ça correspond à bon à manger, la convoitise de la chair. Donc ça paraît logique. La première des tentations concerne le corps, concerne la chair, concerne notre appétit, les pulsions de notre corps. D'accord? La deuxième tentation concerne la vue. Jésus se voit offrir l'ensemble des royaumes du monde, c'est majestueux, c'est magnifique. Pour ceux qui ont parcouru le monde est magnifique. Aussi bien de la création de Dieu que la construction humaine. Et puis, la convoitise des yeux, c'est ce dont Jean parle. On verra un peu plus loin, on va le détailler. Et puis le troisième, c'est quelque chose d'un peu plus subtil, ça va un peu au-delà. C'est une espèce de tentation de, un peu de l'orgueil, un peu du spectaculaire, un peu se mettre en avant, se faire remarquer, être intelligent, montrer son savoir, ça tourne autour de ça. On verra que c'est très important parce que c'est des notions identitaires qui sont extrêmement subtiles. On s'en rend pas compte. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas vous jeter en bas d'une tour. C'est pas ça. Il faut aller au-delà pour bien comprendre. Donc, vous avez ces trois parallèles qui sont très logiques. Et je vous propose, pour expliquer ça, la chose suivante. C'est que chaque tentation, pour chacun d'entre nous, et là on est très pratique, on n'est pas dans la théologie, chaque tentation sera un mélange, je crois que j'ai une diapo là-dessus, chaque tentation est un mélange entre d'une part un besoin légitime, on a tous des besoins légitimes dans la vie, mais on a aussi des doutes, qui n'a pas de doute ici? Levez la main, qui n'a pas de doute? Qui n'a jamais eu de doute? Bon, vous doutez tous, moi aussi, ça tombe bien. Voilà. Donc, la tentation est un mélange entre un besoin et un doute. Le mélange des deux va produire un désir chez nous. C'est-à-dire, la tentation, c'est un désir, souvent. Il naît d'un désir. Est-ce que vous comprenez bien la différence entre un besoin et un désir? Oui, un besoin et un désir. Un besoin, c'est un peu fondamental. Par exemple, j'ai besoin de manger tous les jours. D'accord? Mais, je désire m'acheter la dernière télé plasma 55 cm dernier cri, etc. Bon, j'en ai déjà une, elle fait que 40 pouces. Excusez-moi, il faut parler en pouces maintenant. Elle fait que 40 pouces, mais il y a le 55. C'est quand même mieux le 55 pouces. Est-ce que c'est un besoin, ça? Non, c'est plutôt un désir. Vous comprenez la différence entre un besoin et un désir? Donc Dieu s'est engagé à pourvoir nos besoins, mais pas à nos désirs. Donc, c'est important de faire la différence. Donc, au départ, on a un besoin, mais parfois, on a un doute, ça peut créer un désir. Et là, c'est là que Satan intervient. Satan, il intervient, il y a un combat spirituel. Et de ce combat spirituel, il y a deux issues. Soit je succombe, comme David, soit je gagne. Vous savez que le mot péché, en hébreu, le mot péché, c'est rater la cible. Le mot kata. C'est la vraie cata, même. Pour Ève, ça a été la cata, puis pour nous aussi, parce qu'on est sous la malédiction. Voilà. Donc, soit on chute, soit on triomphe. Si on triomphe, c'est pas pour toujours. Le diable revient après. La tentation revient sans arrêt. D'accord? Donc, je vous propose ce schéma. Au départ, on a un besoin, et on a parfois un doute. On va voir comment ça s'applique à nos trois textes. Je vais essayer d'être assez didactique. Je vais revenir à mon petit tableau. Alors, vous voyez, le tableau s'est agrandi, vous voyez bien, c'est pas trop petit. De toute façon, je n'ai pas moyen. Alors, on va regarder pour chaque temps. Bientôt, on va avoir un nouveau projecteur, on pourra faire des agrandissements, mais voilà. Ce que je vous propose, c'est que pour chaque tentation, on va voir à quoi elle correspond, quel est le type d'épreuve, quel est le besoin derrière, quel est le doute, quel est le désir qui naît et comment on fait pour résister à la tentation. D'accord ? Vous suivez ? Ok. Alors, première tentation, c'est la tentation de la chair. C'est les besoins de notre corps. D'accord ? C'est l'arbre qui est bon à manger. Alors, l'épreuve, c'est l'épreuve des besoins quotidiens. Tous les jours, on sait qu'on a besoin, au quotidien, d'avoir des choses. Dans le frigo, de manger, d'avoir de la lumière, de nourrir nos enfants. Voilà, on a un certain nombre de besoins qui sont légitimes. Et si on n'est pas convaincu que Jésus est tout puissant pour s'en occuper, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on risque d'être dans la crainte. Est-ce que Dieu va pourvoir finalement? Je me retrouve au chômage. J'ai plus de travail. Est-ce que Dieu va pourvoir? Donc mon besoin, c'est de gagner de l'argent pour nourrir ma famille. Le doute, est-ce que Dieu va pourvoir? D'accord? Vous suivez? Donc, le désir, c'est quoi? C'est, je prends le contrôle de ma vie. Si je doute que Dieu va pourvoir, je prends le contrôle de ma vie, je m'agite, et je développe une espèce d'autosuffisance. C'est-à-dire que je me dis, je peux conduire ma vie indépendamment. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des frigos qui sont pleins. Quand on prie « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est une prière qui n'a pas lieu d'être. Ouais. Donc je peux vivre tout seul, je peux me faire tout seul. Alors bien sûr, je lis ma Bible, je lis Jean 15, et Jean 15 nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Oui, sauf que malheureusement, oui, sans lui, on peut faire beaucoup de choses. Donc ce besoin physiologique, c'est un besoin qui a tenaillé Abraham. À un moment donné, Abraham, il s'était dit « Je m'en vais, je n'ai pas de descendance. Qu'est-ce que je fais? Je trouve ma solution. Dieu va-t-il pourvoir? Oui, il l'a dit. Punaise, mais les années passent. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est toujours pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Je me prends en charge. Je deviens autosuffisant. On sait ce que ça a donné. Je ne reviens pas sur l'histoire d'Abraham, vous la connaissez. D'accord? C'est l'exemple du roi Saül. Samuel lui dit, tu attends, j'arrive, j'offre les sacrifices. Saül dit, attends, un jour, deux jours, trois jours. Samuel n'est pas là, le peuple s'excite et tout. Allez, j'offre le sacrifice. Et bing, ça lui a coûté la royauté. Vous voyez, c'est des exemples bibliques. Alors, on n'a pas le temps, mais je pense que ça fait appel aussi à des exemples de la vie chez vous. D'accord? C'est qu'à un moment donné, on a tendance à prendre le contrôle de notre vie. Alors que la réponse, c'est l'homme ne vivant pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le remède, eh bien, c'est vivre dans la dépendance de Dieu. Hein? Et tout à l'heure, Jacqueline a cité ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Si vous n'avez pas à manger, est-ce que Dieu va pourvoir? Oui, ne vous inquiétez de rien. Et là, c'est un verset parmi tant d'autres. Mais si on ne prend pas le temps de lire la Bible, de la méditer, d'apprendre ces versets, on ne peut pas le savoir. Si on a pris le temps de les mémoriser, les versets y reviennent. Ne vous inquiétez de rien. Vous êtes au chômage, vous êtes la nuit, vous êtes réveillé à 14h du matin. Comment je vais trouver du boulot? Si vous avez les versets que vous avez mémorisés, sur la couche, les versets reviennent. D'accord? Ok, pour cette première tentation, je n'ai pas le temps de m'étendre beaucoup plus là-dessus, mais première des tentations, les besoins quotidiens, le corps. Deuxième tentation, c'est l'épreuve de la croix. D'accord? Alors, pourquoi l'épreuve de la croix? Alors, c'est la tentation des yeux. L'arbre est agréable, l'arbre est bon à manger. Eh bien, c'est la tentation de l'importance de soi, l'importance de la réalisation de soi. Je m'explique. Je me réalise en prenant plaisir, d'accord? C'est le besoin du plaisir immédiat. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai appris l'épreuve de la croix. Le plaisir immédiat pour Jésus, c'est d'accepter. Parce que s'il accepte la proposition de Satan, il ne passe pas par la croix. Il jouit immédiatement des choses. C'est Noël. Je suis à Darty, Boulanger, la Fnac. Je ne vais pas faire de pub pour une enseigne. Je n'ai pas d'argent en poche. je passe devant ma télé plasma 55 cm. Et là, au miracle, il y a une promotion et en plus, on me fait un crédit 0%. Et on me dit, ne commencez à payer qu'en février. C'est extraordinaire. J'ai l'occasion de me faire plaisir. Plaisir immédiat. J'ai pas d'argent. Peu importe, on me propose des crédits. Je suis en train de faire le procès du crédit. Je vous explique juste le plaisir immédiat. D'accord ? Donc je vais acheter la télé et je commence à payer. Sauf que il y a une maxime qui dit soit on souffre maintenant et on récolte après, soit on jouit maintenant et on paye après. Et c'est exactement ce qui se passe avec la télé. C'est-à-dire quand la première traite payante tombe en février, j'ai pas de quoi payer parce que pas de chance, en janvier ma chaudière est tombée en panne et du coup le peu d'argent que j'avais d'avance que je consacrais à la télé, je l'ai mis dans la chaudière. Donc c'est le besoin du plaisir immédiat. D'accord ? Alors pourquoi je l'ai rattaché à la réalisation de soi ? Parce que c'est une question très identitaire aussi. C'est que quand je suis dans l'épreuve, je peux sortir de l'épreuve comme Jésus par un plaisir, une acceptation, jouir d'un plaisir immédiat. Mais la question est de savoir, est-ce que Dieu, au travers de l'épreuve que je traverse, est-ce que Dieu a un avenir pour moi ? Est-ce que Dieu avait un avenir pour Jésus ? Oui, il avait un avenir pour Jésus, c'est d'être assis à sa droite, c'est d'accomplir la purification des péchés. Donc Jésus n'a pas cédé au plaisir immédiat parce qu'il avait un futur meilleur. Et Dieu a toujours un futur meilleur que nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vous acheter à la télé plasma. Je dis que si, à un moment donné, vous ne cédez pas à la tentation du plaisir immédiat, eh bien, il y a une récompense derrière. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont abonnés à la rébellion là ? Qui est abonné à la rébellion ? Ouais, il y en a quelques-uns. Il y a un excellent article cette semaine qui parle du plaisir immédiat. Je vous invite à le relire, parce que c'est intéressant. On est tous les jours, là je vous ai pris l'exemple encore de la télé, mais il y a plein d'exemples qu'on peut se... Voilà, le plaisir immédiat, c'est la Star Academy, la réalisation de soi, je vais briller immédiatement, au lieu de me dire que Dieu a, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire de Robert. Vous savez, Robert, c'était un chef d'entreprise brillant et qui avait beaucoup de succès. Son entreprise marchait bien, il avait plein d'employés, il servait le Seigneur, etc. Sauf qu'un jour, il a embauché une jeune secrétaire. Voilà, puis la jeune secrétaire était vraiment très belle, etc. Et je ne vous raconte pas la suite. Et Robert, il a tout gâché. Il a gâché sa vie de famille, son entreprise, etc. Pour du plaisir immédiat. Mais le plaisir immédiat, c'est pour à tous les niveaux. Pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. D'accord. Donc le raccourci, hein. C'est pour ça que j'ai appelé l'épreuve de la croix. Il n'y a pas de poignée sur la croix. Il y a un vieux livre américain qui s'appelle comme ça. Pas de poignée sur la croix. Il faut la porter tous les jours. Hein. On porte sa croix tous les jours. Mais derrière, il y a quelque chose qui est réservé. Je vais vite parce que... Et donc le remède, Luc 22, 42, c'est Gethsémané. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à Gethsémané ? À un moment donné, Père, si tu pouvais que cette coupe s'éloigne de moi. Oui, pas ma volonté, mais ta volonté. D'accord ? Donc voilà, ce deuxième plaisir, cette tentation des yeux, ce désir de paraître, d'être dans la gloire, ça peut aussi nous atteindre pour nous qui venons prêcher devant. Si je viens me prêcher moi, au lieu de prêcher l'Évangile, au lieu de prêcher Jésus-Christ, c'est un plaisir immédiat. C'est le plaisir d'être applaudi, le plaisir d'être devant tout le monde. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je porte plutôt ma croix, parce que c'est pas facile pour moi, je sais pas si je vais finir de parler, mais pour l'instant, ça tient. Merci Seigneur. Ok, je termine vite, parce que c'est vraiment le troisième. Le troisième, c'est l'orgueil de la vie. C'est le plus subtil. J'y reviendrai la prochaine fois, parce que, voilà, l'orgueil de la vie, c'est je suis fier, j'ai envie de paraître. Vous serez comme des dieux, disait Satan à Ève. Vous serez comme des dieux. C'est son identité personnelle, sa réussite. Qu'est-ce qui fait que ma vie est réussie ? Quels sont mes critères de réussite dans la vie ? Est-ce que c'est avoir une belle situation, paraître, faire partie de grands clubs, Rotary, faire des grands voyages, etc. Et puis derrière, eh bien, c'est le besoin d'exister. C'est le besoin de sécurité, c'est un besoin légitime. C'est le besoin d'être reconnu. C'est le besoin d'être applaudi, c'est le besoin d'être glorifié. C'est encore un peu de satisfaction, comme on a vu. Le doute, c'est souvent l'échec. C'est est-ce que finalement je ne vais pas échouer ? Si je m'engage là-dedans, est-ce que je ne vais pas échouer? Si je prends telle responsabilité, est-ce que je ne vais pas échouer? Est-ce que Dieu va me protéger? Est-ce que Dieu est tout-puissant? Là, c'est est-ce que j'ai peur et je me réfugie en Dieu, ou est-ce que j'ai peur et je suis paralysé? Donc c'est le besoin de sécurité, mais c'est le besoin aussi de tenter, de tester Dieu. Jette tout en bas. De temps en temps, on peut tenter Dieu de manière inappropriée. Ça peut arriver, hein? Comment est-ce que je peux tenter Dieu? Je peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi plein d'argent, donne-moi une belle voiture, donne-moi ci, donne-moi ça. Je vais vite. Je reviendrai peut-être la prochaine fois. Être célèbre, spectaculaire. Le remède, c'est se souvenir qu'on a tout pleinement en Christ. Samuel nous a lu, en Éphésiens, il est dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Et Colossiens 3:3 nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, car votre vie est cachée en Christ. Voilà. Donc notre but en tant que chrétien, c'est pas d'être reconnu, c'est pas d'être sur le devant de la scène, c'est pas avoir une réussite brillante aux yeux de tout le monde, d'être applaudi, d'être loué, d'être un élu, d'être un notable dans les clubs locaux, etc. Notre but, c'est de cacher notre vie en Christ et d'être des serviteurs. Voilà. Donc, ces trois modèles de la tentation, finalement, on voit que ça nous concerne de très près. Ça nous va nous chercher parfois très profondément dans notre identité. Et je voudrais, pour conclure, vous rappeler que Jésus a prié pour ses disciples. Il leur a dit à un moment donné, il a dit à Pierre, Satan, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc sachez que devant toutes les tentations, que ce soit des tentations des yeux, tentations de la chair, tentations sexuelles, l'orgueil de la vie, le désir de paraître, eh bien Jésus nous protège. Mais on a une responsabilité quand même. Parce que Satan va nous susurrer des versets. Vous savez, Satan, il connaît très bien la Bible. Il la connaît, mais il ne l'applique pas. C'est sa caractéristique. Il la connaît, mais il n'obéit pas à la Bible. Donc ne faisons pas comme lui. Obéissons à ce que nous dit la parole de Dieu. Et donc la prochaine fois, on va essayer de décrypter quelle est la stratégie de Satan pour nous faire chuter. Et comment Jésus lui a fait pour justement déjouer cette stratégie. On verra que la mémorisation des Écritures, la méditation des Écritures est un élément clé. Voilà, je vous encourage d'ici la prochaine fois aussi à vous plonger dans la parole de Dieu, la méditer jour et nuit, comme nous a lu tout à l'heure Maxime, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen.